Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bug bounty et pour discuter de ce sujet, nous recevons Yassir Kazar.
Bonjour.
Bonjour Yassir, tu peux te présenter en
quelques minutes ? Oui, bien sûr. Alors Yassir Kazar, passionné de nouvelles technologies et de sécurité. Je suis fondateur de l'entreprise Defensive Lab, qui était par ailleurs une entreprise d'audit, de pentest et de formation. Et puis aujourd'hui, je suis le CEO de Yogosha, une plateforme de bug bounty qui met en relation les entreprises avec un réseau d'ethical hackers et de chercheurs en sécurité internationale.
Merci Yassir. Nous recevons également Elie de Travieso.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Lila Travieso, fondateur de la plateforme Bug Bounty Zone et de la société Fonsec. Et par ailleurs également intervenant à la CGPME en tant que référent cybersécurité.
Merci Elie. Et nous recevons également Nicolas Grégoire.
Bonjour. Professionnellement, je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, mais je suis là à titre de mes hobbies qui incluent les bug bounty et du coup, j'en fais pas mal.
Merci Nicolas. Et donc, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Yassir Kazar, un bug bounty, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un bug bounty, pour la petite histoire, c'est quelque chose qui a démarré dans les années 1995 avec Netscape. Et l'idée, c'était de rémunérer les chercheurs en sécurité qui trouvaient des failles. Mais au début, c'était pas vraiment une rémunération en argent. Hein. Cette idée de bug bounty, ça rappelle un peu les chasseurs de primes. Hein. Ça fait le parallèle avec les chasseurs de primes. Puis par la suite, c'est quelque chose qui s'est structuré en plusieurs étapes, jusqu'à devenir une activité pour certains à temps plein, dans laquelle une entreprise, en parallèle au fait de faire appel à du pentest classique ou du test d'intrusion, va faire appel à une communauté de sécurité. Et l'idée derrière, c'est qu'on va basculer dans une garantie de résultat. C'est-à-dire que si un chercheur trouve une faille sur mon système, je vais le rémunérer à la faille découverte.
D'accord. Alors, dans la terminologie des bug bounty, on entend parler de programme. Alors, qu'est-ce qu'un programme ?
Alors, un programme, c'est très simplement la définition technique du besoin exprimé par le client. Donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va définir une cible sur laquelle il souhaiterait identifier les vulnérabilités. Il va définir un périmètre, c'est-à-dire définir les types de vulnérabilités qui les intéressent, de rechercher en précisant aussi des exclusions de périmètre et toute une liste d'informations techniques qui va faire en sorte que la recherche se fera dans de bonnes conditions et dans le respect des sensibilités de certaines normes européennes auxquelles il faut tenir compte. Et en dernier lieu, bien sûr, il va définir un plan de rémunération, à savoir le prix qu'il va évaluer pour payer une vulnérabilité.
Deux questions là-dessus. Est-ce que si je suis un particulier qui a un site avec des chansons de boys band, je peux lancer un programme de bug bounty ? Première question.
A priori, oui.
Et deuxième question, est-ce que le pirate ou l'auditeur, comme vous nous préciserez, je le rémunère pour tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a des limites, des choses à faire, à ne pas faire, etc.
Le programme, si je peux me permettre, donc Nicolas, le programme il définit les règles, donc il faut vraiment respecter les règles, d'une part pour éviter les problèmes juridiques en tant que chercheur, et d'autre part pour maximiser les probabilités de récompense. Enfin, ça sert à rien d'être autoscope, il y a zéro rémunération, enfin, en tout cas la plupart des bons programmes n'offrent pas de rémunération sur l'autoscope. Donc voilà, les règles, il faut les respecter. Principalement pour les intérêts financiers et l'intérêt de protection légale du chercheur.
Enfin, faut quand même dire que le bug bounty, c'est une part infime du piratage sur Internet. Hein. Je pense que Hacking Team ou Ashley Madison sont des exemples de gens qui n'ont pas du tout décidé de passer par une quelconque plateforme de bug bounty. C'est pour essayer de canaliser un petit peu cette créativité, on va dire, des pirates sur Internet qui, au bout d'un moment, en ont marre de juste mettre des fichiers texte sur Passbin et qui voudraient être rémunérés en échange et qui, à ce moment-là, sont prêts à suivre des règles.
Et est-ce que c'est pas un audit à moindre frais, finalement, un audit déguisé?
Non, pas forcément. Alors, il y a Cyr qui parle. Hein. Pas forcément, parce que, par exemple, si on part sur l'idée d'un test d'intrusion, quand on va faire un test d'intrusion ou un test classique, on va cartographier une architecture, on va remonter toute l'archi avec, par exemple, les ports qui sont ouverts, ceux qui ne sont pas ouverts. On va peut-être trouver des failles ou pas, mais on va remonter tout un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'on est en train de faire, ou en tout cas de son système d'information. Là où sur, par exemple, du bug bounty, ce qu'on va vraiment cibler, c'est les angles morts, c'est-à-dire vraiment les vulnérabilités en tant que telles. Et donc, par exemple, un hacker ou un ethical hacker sur un programme de bug bounty, il va pas vous dire voilà l'architecture de votre réseau, c'est pas ce qu'il va vous remonter. Il va vous remonter une XSS, il va vous remonter du data leak, il va vous remonter une escalation privilège, ce genre de choses. Donc, ce sont plutôt des démarches complémentaires, oui.
Yassir, quand même, le plus important dans un rapport de test d'intrusion, ce sont les vulnérabilités qui ont été trouvées. Alors, donc, tu peux pas nier que là, de ce point de vue-là, le bug bounty permet de faire à des Vietnamiens pour pas très cher, ce qui coûtait très cher quand c'était des pentesters français.
Alors, Hervé, excuse-moi Yassir, Ellie, ouais. Juste en complément, en te répondant tout en donnant un complément par rapport à ce que disait très bien Yassir. Il y a une comparaison qu'on peut faire qui est très simple. Lorsqu'on commande un audit ou un test d'intrusion, on s'attend quand même à ce que le prestataire ou le consultant suive une méthodologie que l'on connaît et qui est basée sur des référentiels. Là où dans un bug bounty, on n'a aucune garantie de suivi de méthodologie quelconque vu qu'on rémunère que le résultat. Donc je dirais qu'il y a une vraie complémentarité. C'est là qu'on peut voir peut-être la première caractéristique de complémentarité entre un audit et un bug bounty.
En fait, un bug bounty, c'est du, en fait, c'est un audit, non pas, enfin, dans l'audit, la plupart du temps, tu fais du moyen, et là, tu fais que du résultat, en fait.
Tout à fait.
C'est ça. Et pour rebondir sur ce que disait Hervé sur l'ouverture aux Vietnamiens du marché du test intrusif en France, je pense qu'on n'est pas là parce qu'il y a plein de gens qui veulent du test intrusif avec un certain formalisme et justement une méthodologie, des références sur les auditeurs, etc., etc. Par contre, par exemple, ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'étudiants français qui, au lieu d'arriver sur le marché du travail en ne pouvant pas parler des sites qu'ils ont compromis parce que c'était illégal, ils avaient les CTF, maintenant ils ont les bug bounty, et c'est vraiment, enfin, ça ouvre le marché de la recherche de vulnérabilité, en tout cas, à des étudiants français à qui ça permet de construire son CV et de montrer leurs compétences, et ça, je trouve ça relativement intéressant comme effet de bord, entre guillemets, sociétal, on va dire.
Mais faire travailler des étudiants pour pas cher, c'est une ubérisation qui est similaire à faire travailler des gens des pays moins chers. Alors, donc le propos de Jean-Philippe de départ reste parfaitement valable.
Alors sur cette idée-là, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps qui est le State of Bug qui a été produit par Bug Bounty par Bug Crowd par exemple et qui est extrêmement intéressante et qui éclaire beaucoup plus la réalité du marché du Bug Bounty et ses tenants et ses aboutissants. Quand on regarde ça de très très près, on se rend compte que les Bug Bounty dans lesquels il y a une grande activité et une grande rémunération, ce sont les Bug Bounty privés. C'est quoi un Bug Bounty privé? En tout cas un programme privé, c'est un programme dans lequel le client va sélectionner explicitement les hackers avec lesquels il va travailler. Donc cette idée de se dire avec le bug bounty, je vais pouvoir rémunérer des étudiants pour me trouver des failles et ça va m'aider à sécuriser mon site web, elle est quand même un petit peu fantaisiste. Ça va peut-être certainement leur permettre d'avoir une activité ou une expérience, mais quand on regarde les chiffres qui ont été sortis par Bug Crowd et quand on regarde les niveaux de rémunération les plus élevés et quand on regarde là où il y a le plus de rapports qualitatifs et on génère moins de bruit pour le client final, c'est très clairement dans les bug bounty privés, voire même le nombre de bug bounty privés a explosé en 2015 là où en 2014, il n'y en avait quasiment pas. Donc, il ne faut pas non plus nier les réalités chiffrées du marché.
Alors justement, en parlant de rémunération, combien est-ce que sont payés les pentesters?
Nicolas, toi qui a fait ça sur ton temps libre, est-ce que avant peut-être qu'on revienne du côté des plateformes pour avoir un autre éclairage, est-ce que tu peux nous dire toi combien tu as gagné sur cette partie-là?
Un peu plus de 80 000 dollars sur 3 mois de travail. Enfin, 3 mois de travail, ça fait 30, un peu moins de 30 000 dollars par mois, sachant que c'est quelque chose qui est relativement amusant, mais c'était une stratégie en fait. Il y a différentes façons d'approcher, et j'ai justement approché ces bug bounty là comme déjà un moyen de fabriquer de l'argent, et pas du tout comme des thèses intrusions, c'est-à-dire que j'avais une niche de vulnérabilité issue de ma recherche, et j'ai fait tous les bug bounty pour ramasser l'argent à chaque fois, et du coup ça m'a permis de voir plein de variantes, et du coup j'ai vraiment capitaliser d'un point de vue financier et d'un point de vue diversité des cibles, et c'est vraiment utile en termes de construction de compétences.
J'aimerais bien rajouter un petit quelque chose sur ce que disait Nicolas, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est possible ?
Avec plaisir.
Je reviendrai sur, parce que l'idée qu'il dit sur, par exemple, sur 3 mois, il a gagné l'équivalent de 80 000 dollars. Alors c'est super intéressant sur cette idée du temps passé par les hackers à chercher du bug bounty. Encore une fois, je reviens sur cette étude. L'étude, elle démontre que 43% des chercheurs passent entre 0 et 5 heures par semaine, 27% passent entre 6 et 10 heures, 15% entre 11 et 20 heures, 7% entre 21 et 30, 3% entre 31 et 30, et 4%, ils passent plus de 40 heures par semaine. Ce qui est intéressant avec ces chiffres-là, c'est que le temps passé n'est absolument pas corrélé au niveau de rémunération. Et c'est ce qu'on constate un peu avec ce que Nicolas est en train de nous dire. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnes les plus pointus, ils vont s'amuser, ils vont passer très peu de temps en définitive avec un niveau de rémunération qui est assez intéressant. Et le deuxième chiffre qui est super intéressant, qui éclaire en fait le marché du bug bounty, c'est comment les hackers l'envisagent en termes d'activité. Donc pour 54%, ils l'envisagent comme un complément d'activité, donc ça c'est intéressant. Et 31% l'envisagent comme un objectif à temps plein, et 15% le font à temps plein. C'est-à-dire que si on regarde de manière grossière, on va voir 50% qui l'envisagent comme du complément et 50% qui sont déjà en train de basculer comme une activité à temps plein. Et c'est ce qui confirme que le bug bounty est en train de devenir une activité en tant que telle, bien structurée, et que c'est pas juste un effet de mode qui est là, de passage, ou quelque chose qui sera pour des étudiants qui vont s'amuser avec, pour faire leurs dents et avoir de l'expérience.
Alors là, on parlait de rémunération, quand même, on est dans le haut du panier là, Nicolas, quand même.
Clairement.
Donc oui, grosso modo. Enfin, dans le haut du panier, au niveau français, je pense, j'ai le monde de bug bounty est assez petit, on se croise, donc on sait à peu près qui gagne quoi. Il y en a quand même pas mal qui font plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Mais par contre, ils consacrent beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que moi, 3 mois et demi, c'était sur 2 ans, enfin sur 1 an et demi. Et c'était les week-ends où il pleut et il n'arrive pas souvent par chez moi. Et voilà, c'est tout. Quoi. C'est pas du tout c'est pas lié à ma société. C'est vraiment un hobby sur lequel je passe pas particulièrement de temps.
Juste en complément de tout ce qui vient d'être dit, Ellie Bug Bounty Zone, et pour ne pas être impertinemment pertinent, tout en ne donnant pas raison à Hervé, mais à moitié, nous on constate une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de plateformes qui existent, et il y a beaucoup de plateformes qui font ce qu'on appelle nous du quantitatif. C'est-à-dire qu'ils ont différents produits, des produits phares et des tout petits produits, et on voit que les prix des vulnérabilités parfois sont inférieurs à 100 euros et parfois sont supérieurs à 500 euros, pour schématiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, il y a un marché qui s'est développé, et il y a différents niveaux de rémunération qui définissent différentes origines d'expertise. En gros, l'européen, comme Nicolas, tu me corriges si je me trompe, il va plutôt se concentrer sur des vulnérabilités rémunérées à plus de 500 dollars. Et de par son niveau d'expertise, il va arriver rapidement au résultat que l'on connaît. Alors que il y a des sociétés sérieuses qui proposent des vulnérabilités, qui achètent des vulnérabilités à 100$. Ce qui signifie que oui, je pense que Hervé a raison et que le marché, pas vietnamien, mais indien, est assez présent sur les différentes plateformes de bug bounty à travers le monde, et les différentes études ou statistiques données le démontrent. Donc je pense qu'on est en train peut-être d'assister au développement de plateformes qualitatives et non quantitatives, où il va y avoir une différenciation justement de qualité ou au niveau de l'expertise qui sera offerte. Et nous pensons que le marché européen doit répondre à cette sensibilité-là.
Par rapport à ce point-là, je suis désolé, par rapport à ce point-là, dans la limite ou dans la mesure où le prix d'une vulnérabilité est indexé sur le niveau de criticité, hein, comme on le sait tous, par exemple si on prend des standards de marché comme le CVSS ou d'autres, hein, ou qui permettent en tout cas le barème que va imposer le client, le prix de la vulnérabilité est indexé sur le niveau de criticité. Quand on regarde aujourd'hui le classement des nations, le classement des pays et le classement des chercheurs qui trouvent les criticités les plus hautes, dans le plus haut du panier, on va trouver les Pakistanais, les Indiens, les Tunisiens, par exemple, on va trouver les Égyptiens, et ce sont les criticités qui sont les plus chères payées. La France, par exemple, si on regarde la Tunisie, ils trouvent des criticités de 4,57. Bon, vous voyez ce que je veux dire, sur l'échelle de P1, P5. Quand on regarde des Français, en moyenne, ils sont sur du 3,14. Donc ce raisonnement n'est pas si vrai que ça, parce qu'on est quand même sur des services qui sont de très haut niveau, et cette idée de se dire les Européens vont se concentrer sur les criticités qui sont de niveau haut n'est pas forcément vrai, parce qu'il suffit pas de se concentrer, il faut avoir les compétences pour les trouver. Et aujourd'hui, Bugcrowd fait une chasse incroyable aux Tunisiens, qui remportent les plus grands jackpots par exemple, et les Indiens et les Pakistanais.
Mais je pense pas que le marché français est prêt à être adressé par des chercheurs indiens, pakistanais.
Ah, ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il est prêt effectivement à faire appel à des Indiens, ou c'est effectivement, là, ça va demander certainement un petit moment pour que ça se mette en place. Mais il suffira que les premiers fassent le premier pas, et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Sauf dans le cas des OIV, je pense, hein.
J'avais une question, justement. Je suis une société, je veux mettre en place un bug bounty. Est-ce que juste comme ça, je me lève un matin et je me dis je mets en place un bug bounty, ou est-ce que j'ai des précautions à prendre? Alors, juridique, on en a parlé, mais d'autres précautions au préalable?
Je pense que c'est un très bon moyen d'aller au carton, c'est-à-dire que ça se passe mal. Si vous lancez un bug bounty comme ça, sans réflexion et surtout sans avoir une certaine maturité. C'est-à-dire qu'un bug bounty, vous allez généralement avoir beaucoup de reports dans les premiers jours, avec un taux de déchets entre 80 et 90% qu'il va falloir absorber. Et il faut, grosso modo, les gens que je vois qui profitent le plus du bug bounty sont ceux qui ont un cycle de sécurité mature, avec des pentests qui trouvent de moins en moins de choses, des équipes qui réagissent en interne, y compris du forensics, parce qu'éventuellement, il faudra réagir en forensique sur chaque report de bug bounty avec une compromission de serveur. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont accessibles à toutes les sociétés. Loin de là.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, et je vais aller dans ce sens. On a même constaté que soit il faut avoir une ressource, au moins une, dédiée en interne pour faire du suivi de bug bounty. Et on a aussi constaté que les entreprises qui adoptent très rapidement et de manière assez saine une démarche de bug bounty sont ceux qui ont, par exemple, quelqu'un au sein de l'entreprise qui a déjà fait du bug hunting, par exemple. Les entreprises qui ont au sein de leurs équipes quelqu'un qui a déjà été bug hunter ont énormément de facilité comparé aux autres à mettre en place un bug bounty. Et clairement, même si, par exemple, quand on regarde la répartition, encore une fois, sur les études des typologies d'entreprises qui font du bug bounty, on est assez surpris, parce qu'on va voir que toutes les typologies d'entreprises, de la très petite jusqu'à la très grande, font du bug bounty. Mais ça ne veut pas dire que leur expérience, qu'ils le vivent de la même manière, comme le disait très bien et à juste titre Nicolas. Il y a effectivement un coefficient de bruit qui peut être généré qui est énorme. Et ça ne fait que confirmer cette tendance qui est en train de se dessiner, qui est celle d'avoir des bug bounty privés, quoi.
Excuse-moi, Yassir, Ellie, bug bounty zone.
Oui, bien sûr.
Ce que vous dites, c'est super intéressant, mais Là où je pense que, parce que là on est en train de parler de règles très générales qui s'appliquent à les 90% des plateformes de bug bounty et la nécessité de corriger vite parce que derrière s'engage une rémunération. Mmh. Donc on voit bien que ceux qui ne corrigent pas, ils ne rémunèrent pas, donc ça crée un problème. Le marché européen peut-être répond à d'autres sensibilités. Nous sommes des professionnels de la sécurité. Un client doit choisir, indépendamment du paiement de la vulnérabilité, s'il souhaite la patcher ou pas. Nous savons tous que dans nombreux audits de sécurité, il y a certaines vulnérabilités que l'on accepte. À juste titre, nous venons de finaliser des tests sur deux types de cibles, des cibles grands comptes et des cibles très petits comptes, qui trouvent la plateforme intéressante parce que ça leur permet, ils ont malheureusement, Hervé, ils n'ont pas les budgets nécessaires pour commander un audit supérieur à 5K.
Et non, mais celui qui n'a pas les budgets, il a les moyens d'encaisser les risques, hein. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens de ses ambitions, les enfants. Donc, il a les moyens de faire son site web ou son appli, mais pas les moyens de l'auditer.
Mais juste pour terminer, sans partir sur ce débat-là, on s'aperçoit que nous, on a fait le choix de rémunérer avant que ça soit patché, justement pour que le client décide, en fonction du nombre de vulnérabilités qui sont remontées, si celle qu'il patche, celle qu'il accepte ou qu'il met sous surveillance. Le temps d'une nouvelle évolution du SI. Et on s'aperçoit que ça passe très bien parce que ça rejoint, je dirais, la philosophie des audits de sécurité tels que nous les pratiquons. Donc je pense vraiment qu'il faut essayer de sortir des règles assez généralistes qui sont imposées par les grands leaders américains pour justement essayer de personnaliser un tout petit peu à certaines sensibilités.
Alors là, sur la situation que tu décris, je l'ai déjà vécu en tant que hunter, donc la personne qui investit du temps en espérant toucher de l'argent en sortie. Une société qui patche pas, c'est une société sur laquelle je vais avoir un duplicate. Mm-hmm. Si jamais c'est une stratégie de la société, je ne reviendrai pas. Mm-hmm. Et c'est pareil pour tout le haut du panier, enfin si jamais on me met dans le haut du panier. Et il y avait une étude de HackerOne sur le sujet, enfin
tout à fait.
De HackerOne sur le sujet, qui disait, si vous voulez que les hunters y restent, payez quand vous acceptez le bug, pas quand vous avez patché. Je vois pas
tout à fait.
On devrait lier l'argent à votre cycle de déploiement. Et surtout, patchez vite pour éviter la déception des duplicates.
Tout à
c'est
fait.
C'est pas une question de maintien du niveau de sécurité, c'est une question des hunters.
Nicolas, je vais vraiment dans le sens de Nicolas, c'est extrêmement important cette partie.
Juste deux secondes, excuse-moi.
Oui, vas-y, Ali.
On parle de la problématique de la motivation des experts que l'on porte dans cette communauté-là, et à savoir la problématique du duplicate content. Pourquoi ? Parce que l'entreprise cliente ne va rémunérer que la vulnérabilité qui est trouvée en premier, et si elle est doublée, quintuplée, etc., elle ne rémunérera pas les autres, et ça peut provoquer une certaine frustration au sein de la communauté des experts de cette plateforme. Mais je pense que là aussi, c'est une problématique qui est connue des Américains. Il y a peut-être des choses à réinventer via des plateformes qualitatives pour éviter cette frustration. Et à partir du moment où on répond à cette problématique du duplicate content, on arrive à avoir une communauté d'experts qui ne vit pas de frustration, et un client qui est aussi content parce que il fait ce qu'il veut de sa vulnérabilité. Je ne vais pas dévoiler toutes les fonctionnalités maintenant.
Par rapport à ce point-là, je vous donne quelques solutions. Parce que quand je cite les chiffres des Américains, je pense qu'il est intéressant de les regarder de manière critique pour justement en tirer les bonnes conclusions et ne pas refaire les travers qu'ont fait les Américains. Un premier travers des Américains, c'est qu'au tout début, ils ont ouvert à tout et n'importe qui. C'est-à-dire, ils ont ouvert aussi bien aux striptease qu'aux professionnels. C'était normal parce que c'était le début du mouvement, donc ils étaient obligés de faire une telle démarche. Aujourd'hui...
Désolé, Yassir.
Oui.
Encore une fois, c'est une discussion qui se limite aux instances publiques. CINAC existe depuis le début. Enfin, CINAC a été créé la même année que HackerOne et que BugCrowd.
CINAC, un des anciens de CINAC, privé. Il est de la NSA, c'est ça?
C'est ça, c'est PayPal ou eBay et la NSA.
C'est ça.
Et il y a un examen à l'entrée. On n'a pas le droit de parler des listes, enfin des programmes, etc. Enfin, on a déjà toute cette diversité. Elle existe depuis 4 ans, depuis que les premières sociétés sont arrivées sur le marché. Je vois pas trop ce qu'on invente là.
Non, mais l'idée, ce que je veux dire, c'est que moi, je voulais rebondir sur cette idée qu'aujourd'hui, la tendance qui est en train de se dessiner, c'est que justement, les plateformes qui ont été les plus HackerOne et les BugCrowd, c'était quand même les premiers, et eux sont en train de revenir en arrière sur cette idée de réduire l'entrée, de ne pas la laisser à n'importe qui, voire même de pousser vers le privé. Mais par exemple, sur la problématique très particulière des duplicates, nous, ce qu'on a mis en place, parce que la réflexion pour nous a été toujours de se dire comment régénérer en continu de l'activité pour les hackers. Donc ce qu'on s'est dit, et la solution qu'on a trouvée, c'est que certains sont très doués pour trouver, c'est clair. D'autres le sont un peu moins. Ceux qui sont un peu moins, ben, on leur soumet par exemple la validation ou non de certains rapports. Donc ils peuvent toucher de l'argent en aidant l'entreprise à faire le tri dans les rapports, dans ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que c'est une réalité, les profils ne sont pas les mêmes et on voit très très bien que ceux qui sont extrêmement bons sont très rares et c'est eux qui gagnent les plus gros jackpots.
Bien sûr, je ne sais pas comment un junior va pouvoir apprécier.
C'est pas un junior, on n'a pas de junior nous, dans notre équipe.
Nicolas Grégoire.
Dans notre équipe, il n'y a pas de junior. On a 50 profils qui sont très bien choisis, il n'y a que des professionnels. Pardon. Par contre, on aura toujours ce phénomène dans lequel, même sur 50 professionnels, on va en avoir 5 qui vont aller beaucoup plus vite que les autres et qui vont très très vite trouver les choses qui sont très pointues. Donc ce phénomène-là, quel que soit le nombre, à moins qu'on ait 2 ninjas sur la plateforme ou 2 hackers, ou peut-être là la question ne se posera pas, mais une fois qu'on dépasse une dizaine de personnes, ce phénomène se reproduira systématiquement et il y aura systématiquement des duplicates qu'il faudra traiter d'une manière ou d'une autre. Et nous, toute la réflexion pour nous a été de redistribuer le travail à la communauté à chaque bout de la chaîne, la détecter, trier, corriger, etc., etc.
Je vous propose, pour revenir à la question du bug bounty, peut-être à plus dans ses bases, pour nos auditeurs, de reprendre ce que ma question et donc de reformuler, savoir si j'ai bien compris votre réponse. Pour pouvoir mettre en place un service, une plateforme de bug bounty, il faut donc que je sois déjà assez mature dans ma sécurité, donc que je fasse des analyses de risque, de la revue de code, de l'audit et du suivi des vulnérabilités pour le patch de mes plateformes, etc. Et seulement quand j'en suis là, je peux me dire je vais aller voir et mes experts en sécurité et mes opérationnels et mon service juridique pour commencer à envisager de mettre en place un bug bounty. Est-ce que c'est bien ça?
Yessir, je peux y aller, c'est Yessir qui parle. Alors nous, ce qu'on a fait, effectivement, tu l'as bien signé, il y a deux, si on veut raisonner de manière binaire, on va voir qu'il y a deux types d'entreprises de manière très binaire. Ceux qui ont la maturité, qui ont l'expertise, qui ont déjà des équipes de sécurité en place et qui du coup peuvent avoir toute l'autonomie qui va bien pour gérer un bug bounty, et puis ceux qui n'ont pas cette autonomie. Nous, en tout cas, le choix qu'on a fait, c'est vis-à-vis de ceux qui n'ont pas l'autonomie, on les accompagne de bout en bout. C'est-à-dire, dès le début, on reprend avec eux leur site, on redéfinit avec eux le scope, on fait toutes les étapes avec eux, on fait même des points hebdomadaires sur les rapports qui ont été reçus, on peut même, en fait, prendre en charge toute la partie de la gestion. Ça, c'est un service qu'on propose pour accompagner ce type d'entreprise. Et puis, vis-à-vis de ceux qui ont l'autonomie, qui vont bien, ils sont capables de créer le programme dès le début, créer les rapports eux-mêmes, faire la rémunération, discuter avec les hackers jusqu'à la partie paiement, jusqu'à la partie patch. Voilà le choix, nous, qu'on a fait.
C'est exactement le même schéma chez Bug Bounty Zone. Hein. Il y a deux types de clients. Il y a les clients matures et il y a les clients qui sont immatures de toute prestation de sécurité. Et là, je pense aux TPE et PME qu'il faut pouvoir très simplement adresser avec une définition du périmètre et une typologie de vulnérabilité qui est bien plus réduite que celles qui seront définies par un client grand compte.
Alors, il y a Cyr et Élie, c'est intéressant ce que vous disiez. J'entendais que vous triez sur le volet les hunters en fait dans vos bug bounty. trier des hunters aujourd'hui en France, à part, enfin, je vais pas remettre les choses sur la table, mais effectivement, Nico est assez connu dans le domaine, et on sait qu'il est indépendant, qu'il a sa boîte, etc. Vous allez travailler avec des hunters qui sont des indépendants, ou vous allez peut-être aller chercher des hunters dans des cabinets de consultants qui font des tests d'intrusion dans leur coin, etc. Comment ça se passe?
Ben oui. Et qui ont du temps libre, voire pendant les heures de bureau.
Alors, pour faire de l'intercontrat, c'est une très bonne idée. Hein. Je vois plusieurs sociétés d'audit, de pentest ou d'audit, qui sont intéressées à faire de l'intercontrat sur le Bug Bounty pour rentabiliser leurs consultants.
Mais tu as parfaitement raison, Nicolas. Nous, dans Yogosha, hein, nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on ne cherche pas qu'en France. Nous, notre terrain, il est aujourd'hui, on a des hackers avec nous qui viennent d'Espagne, des hackers en Tunisie, au Maroc, en Finlande, en Islande. On a tout un réseau mondial avec qui on travaille, parce que aussi, on attaque aussi un marché, toute la partie Europe, Afrique, Asie. C'est une partie qui nous intéresse. Donc, on regarde aussi, on a aussi des premiers clients dans ces zones-là. Donc, notre terrain de collaboration et le réseau qu'on dessine, il dépasse de très, très loin les frontières uniquement de la France. Et dans ce cas-là, on a des cas de figure extrêmement divers et variés. Parmi les gars qu'on a, on a des gens qui ont décidé de faire ça à temps plein. Donc, ils se sont libérés complètement pour ça. On a aussi des gens qui le font en parallèle à leur activité. Et puis l'idée qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, durant l'intercontrat de leur ingénieur, ils sont intéressés pour les positionner sur des missions de bug bounty.
Nicolas, justement, est-ce que tu peux nous raconter un bug bounty, alors soit par un exemple, soit une trappe habituelle, mais je crois que le dernier en date, c'est quelque chose autour de Pornhub.
Ah oui, Pornhub, c'est marrant, ça attire toujours la curiosité. Pornhub, en fait, je connais l'équipe sécurité, enfin certains membres de l'équipe sécurité de Pornhub. Du coup, j'ai été invité à leur programme privé qui est hébergé sur HackerOne, mais que l'info est désormais publique. Mmh. Et voilà, et j'ai trouvé un SSRF, quelle surprise, qui permettait d'accéder je sais plus quoi. La récompense a été relativement faible, et c'était 500 €, je crois, $500. Et en fait, ils l'ont triplé, enfin, ils ont rajouté le triple, donc ils l'ont quadruplé, quand ils ont ouvert le programme public, en voyant le delta entre le programme privé et le programme public, en fait. Ça leur a permis de réévaluer les inputs qu'ils avaient eu précédemment, ce qui était à mon avantage. Voilà, mais Pornhub, c'est vraiment parce que c'est du porno et que tout le monde, ça les amuse. Mais j'ai eu des expériences bien plus intéressantes sur, par exemple, Yahoo ou Facebook. Yahoo, par exemple, est parti de très bas, du pire bug bounty qui existait à un des meilleurs. Comme quoi, il n'y a pas que Microsoft qui peut passer de très bas à très haut en quelques années. Donc, c'est un bon exemple de progression.
Et une question par rapport à ça, comment les autorités qui régulent plus ou moins la sécurité dans les différents pays voient ces principes de bug bounty?
Je pense, alors, Ellie, bug bounty zone. Donc, pour deux réponses, hein. Je pense que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'OIV qui lance un bug bounty, le débat ne se développera pas. Après, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et la relation sur justement l'origine des experts, peut-être que là aussi il y a certaines sensibilités qui font que, je vais vous donner juste un chiffre, hein, et là je vais répondre à Hervé. Un consultant à Hervé, si on suit la moyenne de Nicolas, c'est-à-dire 80 000 € en 3 mois, hein, il y a 4.
C'est pas une moyenne, c'est un max.
C'est un max. Bon, on va prendre 60. On va dire que Nicolas aurait fait 50. Il y en a 4, ça fait 200. Il génère 200 000 de CA. Bon, il pourrait générer plus s'il le faisait encore plus sérieusement, s'il était dans une société avec un management plus rude. Ça démontre quoi, ça? Ça démontre qu'aujourd'hui, peut-être que si on veut répondre au mieux à certaines sensibilités, c'est les boîtes de pentest actuelles qui doivent rajouter un service sur lequel il y a peut-être un business model qui est en train de se développer. Et là, peut-être sera la réponse des boîtes de sécu aux plateformes quantitatives qui existent depuis quelques années.
Juste sur le retour, tant qu'il n'y a pas d'OIV qui fait un bug bounty, on en revient toujours à la même chose. Si c'est un bug bounty privé, éventuellement il est déjà en cours et j'y participe et vous le savez pas. Mmh. Et auquel cas on a des OIV qui font des bug bounty. Donc c'est toujours le problème du privé.
Tout à fait.
Oui, mais il y a un problème de responsabilité de la responsabilité de la plateforme, hein, et on peut parler aussi d'éthique. C'est peut-être la plateforme de refuser de faire un bug bounty sur un OIV. Enfin, je sais pas, soit sinon, l'éthique, elle existe des deux côtés. Hein. Elle n'existe pas que chez le fournisseur, elle existe aussi chez le client.
Et c'est pas non éthique de faire un bug bounty.
Aujourd'hui,
vous êtes en train de dire que c'est des trucs illégaux ou...
Non, je sais pas, je dis pas ça, mais par rapport, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un bug bounty qu'avec des boîtes qui sont certifiées PASI. Ok, sur une plateforme qui est certifiée ANSI, on n'en est pas encore là.
Enfin, les OIV, ça va être au niveau du SIV, donc c'est un peu restreint. Si tu prends
c'est peut-être là le plus
les centaines
d'être sûr.
D'OIV qu'on a en France, c'est pas parce que tu as une partie où il y aura un SIV que c'est tout l'OIV qui est concerné. Donc je pense que c'est pas tout à fait le point. Merci pour cette excellente transition. Vous avez juste avant évoqué le fait que vous faisiez dans vos compagnies éventuellement des audits, vous aviez des équipes de pentester ou que les sociétés d'audit pouvaient avoir des auditeurs et que sur leur temps libre, donc l'intercontrat, elles pourraient essayer de faire du bug bounty. Et ça m'éveille une question de gestion du conflit d'intérêts, puisque si sur leur temps de travailler, ils font les audits et qu'après ils passent à du bug bounty, est-ce qu'ils vont pas justement oublier de dire des choses dans les rapports d'audit pour essayer de gagner davantage, ou que les sociétés gagnent davantage à travers les bug bounty?
Ben, on interdit aux personnes qui travaillent sous contrat de pentest de soumettre bug bounty. Sinon on retombe dans une BD de Dilbert qui est exactement ça, où les employés peuvent soumettre et la personne dit cet après-midi je vais me coder un van. Non, je pense que c'est comme les jeux carambars. Il faut éviter que les sociétés de la, enfin que les membres, les employés de la société, des sociétés parties prenantes puissent participer au jeu concours entre guillemets.
On est bien sur ces points de règles très précis. Si t'es manqué de binet d'audit, tu peux pas participer au bug bounty, même en tant qu'indépendant. Et y a d'autres règles importantes comme celle-ci.
Ben, on parle d'un business model qui n'existe pas encore, donc les règles, faut les inventer, mais ça me semble une règle de bon sens, oui. Après, c'est pas un très gros souci, sachant que le nombre de cibles, il y a plusieurs centaines de scopes légaux, j'en ai compté 4 ou 500 la dernière fois, donc si on s'en interdit 5 ou 10, c'est pas un problème pour la société d'audit. Elle arrivera quand même à occuper ses consultants.
Oui, à savoir qu'il y a quand même très peu de sociétés d'audit aujourd'hui qui ont de l'intercontrat en thèse d'intrusion. Enfin, peut-être un mois dans l'année, quoi, un mois et demi dans l'année. Est-ce que ça suffit à générer une activité pour ces gens-là? On essaiera d'y répondre dans les semaines à venir, mais il y a vraiment deux axes en termes d'origine des chercheurs. Hein. Aussi bien des freelances, aussi bien des chercheurs étrangers, comme le disait très bien Yassir, que des chercheurs français.
Ça, vous avez l'air de mettre une importance particulière à cette question de nationalité. L'Internet est plutôt international. Est-ce qu'il y a des points précis? Est-ce que c'est des questions de sûreté nationale ou est-ce qu'il y a autre chose?
C'est surtout les gens des plateformes qui font cette différence. Moi, je l'aperçois pas vraiment et je la fais pas au niveau chercheur. Je suis sans doute toujours surpris de la diversité des origines des bons rapports.
Il y a une explication qui peut être assez simple. C'est que quand on prend, par exemple, des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Tunisie ou autres, il y a un niveau de chômage qui est extrêmement élevé. Donc, il y a extrêmement de personnes qui sont très, très bien qualifiées, qui ont passé leur temps dans des hackerspaces, dans passé à faire des CTF, mais qui n'ont pas de job. Et donc, ils sont capables de bosser 24 heures sur 24 sur du bug bounty. Et ils voient, bien entendu, dans le bug bounty, une activité à temps plein qui leur permet de vivre plus que dignement. Ça explique aussi pourquoi, dans certaines zones, on peut trouver des gens qui sont capables de travailler sur du bug bounty de manière très consistante. Là où en France, vous comprenez bien que une personne effectivement qui a un CDI déjà assez chargé et tout, qui a une vie privée en parallèle, bah, c'est un peu compliqué pour lui, sauf certains cas particuliers, comme Nicolas qu'on a avec nous. C'est un peu plus compliqué pour ces personnes-là de pouvoir travailler de manière continue sur du bug bounty.
Je compléterai vraiment les deux interventions de qualité en rajoutant donc Elie Bug Bounty Zone, le fait qu'il y a une notion de marketingisation de la sécurité avec une preuve flagrante qu'on peut adresser à ses clients, comme quoi l'entreprise fait un effort considérable pour élever son niveau de sécurité, et un effort permanent. C'est un peu la démarche qu'offre le bug bounty, contrairement à un audit. D'un point de vue marketing, il est préférable pour une société de dire « j'ai été testé par 1000 experts sécurité dans le monde » que de dire « j'ai été testé par un cabinet que seuls les professionnels de la place reconnaissent ». Le grand public, lui, ne le connaît pas, mais par contre, le grand public connaît l'image marketing du hacker et se fait tout de suite une opinion en se disant, et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui les programmes les plus rémunérateurs sont Facebook, sont des éditeurs, pour pas citer celui-là, qui ont développé leur propre bug bounty en interne et qui ont les équipes sécurité qui le gèrent, parce que ça leur permet d'avoir une certaine image de marque sécurité que les audits d'intrusion n'offrent pas aujourd'hui aux acteurs. Et après, par rapport à l'origine, pour finir, je veux dire, pour l'origine des experts, tout va dépendre de la sensibilité de la cible. Si on prend un e-commerçant français, je pense qu'il va avoir une préférence pour des chercheurs français. Si on prend un objet connecté français, mais qui est vendu dans le monde, il va avoir une préférence peut-être pour des experts d'une origine internationale.
Donc, enfin, vraiment, surtout des experts pas chers, parce que objets connectés, pas beaucoup de sous.
Ça reste quand même pas cher de comme le disait Nicolas, hein, la vulnérabilité, le premier prix, il a été rémunéré 500, il a mal vécu, ça a été réévalué à 1005 ou 2000, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un audit. On a un éditeur qui se retrouve avec une vulnérabilité, c'est pour le même audit, sur des surfaces d'attaque qui sont très larges, il peut pas jouer. Donc il y a vraiment cette complémentarité avec peut-être des audits sur des biens très sensibles qui vont continuer à perdurer, et des bug bounty sur des périmètres moins importants, mais sur lesquels il est important d'avoir une surveillance et sur lesquels on va marketingiser cette image de sécurité auprès de ses clients.
Et puis Hervé, j'aimerais réagir à Hervé qui insiste énormément sur cette idée de pas cher, cher, etc. Revenons sur cette idée de pas cher. Qu'est-ce qui coûte en fait cher dans le modèle de service tel qu'on le connaît aujourd'hui ? C'est le middle management. C'est ces personnes qui vont mettre la pression aux chercheurs pour pondre un rapport durant 2 jours, alors qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour rentrer dans les contraintes budgétaires, voire même qui vont pousser ces jeunes à démissionner.
Tu fais référence à des sociétés que nous avons tous en tête et que nous voyons bien, et qui n'est peut-être pas la majorité des sociétés de pentest. Lorsque tu payes 8000 euros un audit, tu peux avoir 25 vulnérabilités.
Avec un junior,
donc à 1500 euros la vulnérabilité dans le bug bounty, c'est moins cher d'acheter un audit. Je peux pas te laisser dire que dans toutes les sociétés, il y a un middle management qui met la pression. C'est incontestablement vrai dans des expériences que certains dans ce podcast ont eues. Mais je m'excuse.
Tu as raison.
Moi, j'ai un taux de renouvellement du personnel qui démontre le contraire.
C'était pour donc, te taquiner. Hein.
Oui, oui. Enfin, c'est réciproque. Hein, dans ce cas-là. Non, il y a des audits qui peuvent être très rentables, parce que finalement, pour un audit à 8000 euros, on a 25 trous de sécurité qui auraient même provoqué des fuites de données à caractère personnel, qui coûteront très cher avec le règlement européen.
Parfait.
Donc, quand c'est au troisième audit de sécurité et que les mecs, ils ont tout corrigé, que t'es la troisième boîte à passer, ah, effectivement, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont pas bien rentabilisé les 8000 euros.
Par contre, moi, je reviens sur mon histoire d'autorité, parce que enfin ça fait référence à une expérience récente que j'ai eue sur un client chez qui j'ai travaillé, enfin chez qui je travaille toujours d'ailleurs de temps en temps. On a commandé un audit pentest à un gros cabinet de la place française, enfin un cabinet de la place française qui est dans la liste du PACI là. Donc ce cabinet a fait son travail, nous a remonté un certain nombre de choses. Quelques semaines après, on a eu un retour de Open Bug Bounty, excusez-moi, sur deux vulnérabilités qui n'ont pas été vues par le cabinet, qui sont des vulnérabilités de base, je dirais, un pauvre
XSS. T'as signalé à la NSSI ?
Je suis quand même assez intéressé comprendre.
Est-ce que la prestation était PACI ? Parce que faut pas confondre une prestation PACI et un cabinet PACI. Un cabinet PACI peut faire travailler des stagiaires en alternance qui n'y connaissent rien.
C'est pas déjà quelque chose dont on a parlé, la complémentarité entre les deux modèles, etc. On revient pas là-dessus.
Mais effectivement, je pense que c'est ce qui est en train de se vérifier. On se rend compte que un pentest, c'est quand même quelque chose de très limité dans le temps. Et qu'il faut garder ça dans le tête, et qu'aujourd'hui on est face à des équipes informatiques qui produisent en continu, donc qui produisent tous les jours, et le jour va. Alors, bien entendu, quand le test d'intrusion est fait de manière très très propre, on pourra détecter quelque chose des semaines après. Mais la réalité étant que l'informatique vit sa vie, on a des équipes qui produisent en continu, et donc 3 semaines après le test d'intrusion, on a certainement une dizaine de features qui viennent de tomber, qui comportent peut-être une XSS ou autre. Donc c'est là où on voit que les timelines du bug bounty et du test d'intrusion ne sont pas les mêmes. Sur un bug bounty, on est quasiment, entre guillemets, ad vitam aeternam. Donc, on a quelque part cette idée de, il y aura toujours quelqu'un qui va venir regarder, mettre son nez dans notre système pour voir ce qui est en train de se passer. Et c'est ça ce qui se vérifie, en fait, ce que le cas qu'on est en train de remonter, sans dénigrer l'entreprise en question ou, voilà, c'est peut-être tout simplement, on est tombé pile poil dans ce cas de figure.
Alors, Nicolas Grégoire, c'est quel type de failles qui sont le plus souvent remontées ?
En termes de volume, c'est très usuellement les XSS parce qu'ils sont faciles à trouver et leur recherche est facilement automatisable. Après, si on parle de volume financier, c'est les exécutions de code à distance, évidemment, quels que soient les moyens d'y arriver, que ce soit du spécifique à l'application ou au contraire spécifique à la techno employée, strut, etc.
JP, tu avais une question pour conclure ?
Oui, c'est quelque chose peut-être d'un peu pratique pour nos auditeurs, à la fois pour les chercheurs en sécurité et à la fois pour les entreprises. Pour les chercheurs, peut-être Nicob, est-ce que tu as 3 conseils pour les chercheurs et puis pour Yassir et Eli, 3 conseils pour les entreprises qui voudraient monter un bug bounty ?
Ok, 3 conseils pour les hunters. Le premier, ce serait le respect du scope en termes de quelle cible vous pouvez interagir avec. Ça, c'est une protection juridique. Généralement, le blog ou les services de recrutement sont externalisés et sont en scope. Deuxième conseil, respecter le scope sur les vulnérabilités. Pas la peine de passer 2 heures sur du CSSP alors que c'est très 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 souvent hors scope parce que c'est mal maîtrisé par les devs. Troisième conseil, essayez d'être différent par rapport aux autres testeurs. Par exemple, il y a 2 ans, le XXE c'était innovant, le SSRF ça l'était encore il n'y a pas si longtemps. Voilà, trouvez un différenciateur pour vous permettre de maximiser vos chances de scorer.
Merci. Et Eli et Yassir pour les entreprises ?
Alors, très rapidement, 3 conseils très simples, quelle que soit la cible. Donc, le premier conseil, c'est toujours pareil, la sensibilité du marché européen, choisir une plateforme sécurisée, parce que c'est important de savoir que les vulnérabilités qui vont être diffusées et communiquées sont sur une plateforme qui respecte certains critères de sécurité de haut niveau. Le deuxième, c'est peut-être de commencer par un bug bounty privé, fermé au public et réservé à un certain nombre d'experts. On peut dire entre 3 et 5 experts, ça permet déjà de se faire un ordre d'idée. Et le dernier conseil, c'est de sélectionner ces experts selon des profils qui correspondent à vos niveaux d'exigence. Voilà, pour moi, les trois conseils que l'on donne aujourd'hui aux sociétés que l'on sollicite.
Merci. Yassir, un complément peut-être ?
Alors, complément, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ellie, donc dans le sens où le premier point, c'est effectivement s'assurer que la plateforme sélectionne des profils et qu'il y a des profils sur la plateforme qui sont assez pointus et de qualité, et auquel cas travailler avec eux dans le cadre de bug bounty plutôt privé pour éviter d'être noyé dans les rapports. Le deuxième point qui me paraît être intéressant, c'est de s'assurer que la plateforme est capable d'accompagner avant, pendant et après le bug bounty, parce que le bug bounty, c'est pas juste recevoir des rapports, c'est une préparation en amont, c'est un travail pendant et puis c'est un accompagnement après. Et puis je pense qu'un dernier point, c'est qu'il faut aujourd'hui intégrer une bonne fois pour toutes que la sécurité n'est pas un coût, mais c'est une nécessité, voire un avantage compétitif, et que justement le bug bounty et la promesse ultime du bug bounty, c'est que justement elle permet de s'adapter au budget des entreprises pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir intégrer la sécurité tranquillement dans leur process.
Et moi, j'ai quand même une question pour conclure. Il y a un bug bounty sur les plateformes de bug bounty ?
Oui, nous, chez nous, on a un bug bounty sur Yogosha, sur lequel on reçoit régulièrement des rapports de vulnérabilité auprès de notre communauté. C'est la première chose avec laquelle on a commencé sur Yogosha.
Pareil chez HackerOne et BugCrowd, pour ceux dont je peux parler.
Bon, eh bien, Ellie, Nicolas, Yassir, un grand merci pour avoir participé à cet épisode.
Ouais, merci à tous.
Merci à vous pour l'invitation.
Ouais, mais merci pour l'invitation. C'est un échange super riche à renouveler quand vous voulez.
Avec grand plaisir. Ouais.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et on se donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.